Dieu. On a posé la question un jour à Jacques Brel. Êtes-vous heureux? Un gars qui est connu dans le monde entier, qui remplit toutes les salles, c'est une star. Êtes-vous heureux? Vous savez ce qu'il a répondu? Si je disais oui, ce serait excessif. Si je disais non, ce serait excessif. Il y a en moi un vide inexplicable, dira-t-il, et qui augmente en raison des choses que j'ai apprises. Quel est votre but, Jacques Brel? Il répond, allez au bout de moi-même. Vous savez, quand on fait 1m70, ça ne va pas bien loin. Hein? Allez au bout de moi-même. Avez-vous un message à porter? Jacques Brel, il avait des chansons qui tenaient la route. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'ai grandi avec Aznavour, Yves Montand, Jacques Brel, Georges Brassens. Ce n'était pas des navettes, hein, c'était des stars. Avez-vous un message à porter? Cet homme était honnête. Il a dit le message serait celui d'une certitude. Or, je n'ai pas de certitude. Donc, je n'ai pas de message à porter. Voyez-vous, tous ces gens qui font la une des journaux, qui attirent des foules, et on paye très cher pour les entendre, on croit qu'ils sont heureux, on croit qu'on dit, tiens, le gars, il a réussi. Mais en fait, quand on gratte un peu, quand on voit de plus près, quand on connaît de plus près leur vie, quels qu'ils soient, les plus grands, les plus grandes stars de ce monde, au fond d'eux-mêmes, ils sont malheureux. Georges Brassens, excusez-moi, qui bouffait du curé, qui n'est pas croyant du tout, il avait un côté anarchiste, mais il avait des valeurs, c'était un gars qui, ouais, il avait des belles chansons. Il a dit ceci, il avait un ami qui s'appelait Barès, un curé. Et puis, un jour, il a dit, en parlant du ciel, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? J'ai fait une mission avec Dany et Moïse à Grenoble, avec des grandes affiches, c'était le titre, et si c'était vrai? Alors les gens, ils étaient bien sûr interpellés, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ils sont venus pour entendre. Et on leur a dit que il existait un sauveur extraordinaire et c'était pas du bidon. Et Brassens a dit, malgré qu'il disait qu'il ne croyait en rien, lorsque je mourrai, parce qu'il est mort, vous savez, ah bon, ça me rassure, j'aimerais que Barès fasse une prière. Vous voyez, quelque part, les gars, ils se moquent, ils disent tout ça, c'est tout du vent, c'est tout du bidon, mais quelque part, et si c'était vrai? Et si Dieu existait? Il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et quelque part, quand on dit on est mort, on est bien mort, ça rassure personne, ça ne satisfait personne. En tous les cas, moi, ça ne me satisfait pas. Je ne peux pas croire que je suis ici-bas pour vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, et puis disparaître comme cela, dans le néant. Non, non, mes amis. Tout ce que vous avez chanté, tout ce que nous avons chanté, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et pour nous, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas on espère que, c'est une certitude. Et ça va être mon message dans un instant, une certitude. Alors je vais chanter encore un ou deux chants. Oh, 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 viens. Petit chant bien sympathique. Est-ce que tu peux me donner le pianiste là? Sol majeur, s'il te plaît. On va essayer. Oh, non, c'est trop haut, un peu plus bas. Oh, 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 viens, celui qui t'aime, qui t'attend. Oh, 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 viens, Jésus, sans tarder maintenant. Oh, 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 viens, il connaît tes soucis et tous tes ennuis. Oh, 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 viens, tu trouveras en Jésus le repos. Oh, 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 viens, allez, allez, la délivrance de tous tes fardeaux. Oh, 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 viens, il veut te secourir, il veut te guérir. Oh, 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 viens, tu trouveras en Jésus le repos. Oh, 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 viens, la délivrance de tous tes fardeaux. Oh, 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 viens, il veut te secourir, il veut te bénir. Oh, 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 viens, pas compliqué. C'est pas compliqué, faut venir simplement. J'allais dire, mais j'ai rien dans les poches, j'ai pas prévu d'amener un gâteau avec moi, non, non. Il faut venir tel que vous êtes, mes amis. C'est ça le merveilleux de l'Évangile, tel que vous êtes. Le Seigneur n'attend rien de vous. L'Évangile, c'est gratuit. On ne peut pas monnayer le salut de Dieu. La seule monnaie que Dieu accepte, c'est celle de la foi. Alléluia. On va rechanter ce chant. Oh, viens. Oh, 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 viens. Viens, celui qui t'aime, qui t'attend. Oh, 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 viens. Viens, Jésus, sans tarder maintenant. Oh, 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 viens. Il connaît tes soucis et tous tes ennuis. Oh, 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 viens. Tu trouveras en Jésus le repos. Oh, 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 viens. La délivrance de tous tes fardeaux. Oh, 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 viens, il veut te secourir, il veut te guérir. Oh, 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 viens, tu trouveras en Jésus le repos. Oh, 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 viens, la délivrance de tous tes fardeaux. Oh, 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 viens, il veut te secourir, il veut te bénir. Oh, 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 viens. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous chanter encore un cantique composé très récemment. Ce cantique a toute une histoire. Le pasteur François Forclay, avec qui je travaille, m'a dit: Jean, je veux que ce soit toi qui fasses le discours pour ma sépulture. Alors, j'ai 7 ans de plus que lui. Vous avez tout compris, hein? Alors j'ai dit: François, écoute, t'es pas logique. La logique veut que ce soit moi qui parte avant toi. Et je veux que ce soit toi qui fasse le discours pour ma sépulture. Alors il y a un vrai problème entre lui et moi. Voyez-vous? Et j'ai composé un chant. J'ai dit: j'aimerais que vous chantiez ce chant quand je vais vous quitter. Jacques Brel chantait « Ne me quitte pas ». Et pourtant, mes amis, il y a 3 choses qui sont certaines. 3 choses. 1, l'augmentation des impôts. Ça, il faut le savoir. Quel que soit le gouvernement, les impôts augmenteront. Ça, il faut le savoir. 2, qu'on le veuille ou non, on vieillit tous. Malgré les cosmétiques anti-âge, anti-rides et anti-rouille. On vieillit tous. On a beau faire tout ce qu'on veut, hein, il n'y a rien à faire. Et puis trois, ben voilà. Hein, un jour, on va partir. On peut dire non à Dieu, mais on ne peut pas dire non à la mort. Ça, ne l'oubliez pas. Je ne vous connais pas. Vous pouvez très bien dire, parle toujours, prédicateur. Ça ne m'intéresse pas, j'y crois pas. Peut-être. Et tu ne pourras pas dire non à la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas de métempsychose, pas de réincarnation, tout ça c'est du blablabla. Après quoi vient le jugement. Alors donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt. Un, je sais en qui j'ai cru. Et deux, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Donc, aucun problème. No problème. Alors, ce chant, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la réunion. J'aimerais qu'on puisse chanter le refrain ensemble. C'est très facile, vous allez voir, hein, le refrain. C'est vrai qu'on n'a pas répété, ni avec le frère, ni avec vous, mais ça ne fait rien. Alors, donne-moi, attends voir, un sol mineur. Sol mineur. Voilà. Alors, le refrain, c'est simple, ça fait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hein, je vais le chanter une ou deux fois, vous allez tout de suite attraper. Et j'aimerais qu'on puisse chanter le refrain ensemble. Alors, redonne-moi le sol mineur. Voilà. Quand nous aurons fermé les yeux, à tout jamais quitté ces lieux, à l'instant du dernier adieu, s'ouvriront les portes des cieux. Oh, que c'est formidable! Quand nous aurons fermé les yeux, à tout jamais quitté ces lieux, s'ouvriront les portes des cieux, nous irons auprès de Dieu. Alléluia, 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 au roi des rois. Des fois, Alléluia, 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 au roi des rois. Enfin, nous le verrons, nous le contemplerons, Jésus, notre Sauveur, dans toute sa splendeur. Pour toujours réunis en sa présence bénie, il séchera nos pleurs, consolera nos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Au roi des rois, Alléluia, 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 au roi des rois. Plus de cris, plus de douleur, de crainte, d'angoisse, de malheur. Plus d'obscurité, ô quelle félicité, transporté d'allégresse, adieu deuil et tristesse, dans la cité de Dieu, pour toujours bienheureux. Alléluia, 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 au roi des rois. Alléluia, 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 au roi des rois. Acclamé par les anges, les saintes, saintes phalanges, ravis et merveillés, avec tous les rachetés, nous allons chanter sa gloire, sa puissance. Nos amours, sa bonté, notre reconnaissance, acclamée par les anges, les saintes, saintes phalanges, ravis et merveillés, avec tous les rachetés, nous allons chanter sa gloire, sa puissance, sa fidélité, notre reconnaissance. Alléluia, 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 au roi des rois. Alléluia, 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 au roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça, je veux qu'on chante ça pour ma sépulture. Alléluia, au roi des rois. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu. Et on va lire un texte dans la première épître de Paul à Timothée. Voilà, première épître de Paul à Timothée. Alors, Nouveau Testament, et on va lire le chapitre 1er, verset 12 et suivant. Premier épître à Timothée, chapitre 1er, verset 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est une parole certaine, nous dit l'apôtre Paul. Une parole qui est sûre, une parole qui est fiable, une parole qui est immuable, une parole de vérité. Nous sommes dans un monde où nous sommes submergés par toutes sortes de paroles. En ce moment, on est servi avec la préparation des élections. Il y a des paroles qui arrivent de partout. On entend toutes sortes de paroles. Nous sommes dans un monde où toutes les idéologies s'écroulent les unes après les autres. Où toutes les valeurs traditionnelles qui fondaient la société, j'ai noté le mariage, la famille, le travail, le respect, tout cela est aujourd'hui jeté aux orties. Nous sommes dans un monde qui est en pleine crise d'identité, où tout fout le camp. L'autre jour, je lisais un article qui m'a... Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me surprend. J'ai dit, mais quand même, on tombe de plus en plus bas. Un monsieur a rempli un document, c'était, je ne sais pas si c'était pour un travail, en tous les cas, pour l'administration, et où il était écrit « sexe », on lui demandait son sexe. Vous savez ce qu'il a écrit en face ? « Neutre ».« Sexe neutre ». C'est-à-dire que le gars... Il ne sait pas s'il est un homme ou s'il est une femme. Mes amis, je ne sais pas si vous réalisez comme l'homme moderne est tombé bas. Le gars, il sait plus qu'il est. Et il semblerait que ça ne choque plus grand monde. Moi, j'ai été quand même bouleversé. Nous sommes dans une société qui n'est plus sûre de rien. Puisque nous parlons d'élections, l'autre jour, une journaliste aguerrie disait, autrefois, les candidats disaient, on va tout changer, on va améliorer, etc. Maintenant, les trois quarts nous disent, on ne sait plus où l'on va. Et c'est vrai, mes amis. Comme disait, je crois, c'est Chirac, tout fout le camp, et comme disait De Gaulle, c'est la chienlit, excusez-moi. Nous sommes dans un monde qui est complètement paumé, il n'y a plus de repères, il n'y a plus le bien. D'abord, si, le mal est appelé bien, et le bien est appelé mal. Il y a un véritable renversement des valeurs. Comme chantait Liane Folly, le monde est fou, fou, fou. Remarquez, quand on s'appelle Liane Folly, qu'est-ce qu'on peut chanter d'autre ? Le monde est fou, 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 voyez-vous. Et c'est tellement vrai, mes amis. On ne sait plus qui croire. On ne sait plus ce qu'il faut croire. La parole des hommes, elle n'est plus fiable. Les promesses des hommes, on sait ce qu'elles valent. Du reste, il y a de plus en plus de personnes qui disent « Moi, je ne voterai plus ». Et quelque part, ça peut se comprendre. Je crois que c'est Bismarck qui a dit cette parole. Vous savez, en politique, si vous marchez dans le droit chemin, vous ne rencontrerez pas beaucoup de personnes. Et je crois qu'il avait raison, le gars. N'est-ce pas ? C'est une parole sûre, dit l'apôtre Paul. C'est la parole de Dieu. C'est une parole de vérité qui n'a rien à voir avec la parole des hommes qui est fluctuante, qui change. Le Dieu de la Bible... C'est le Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu qui ne ment pas. C'est le Dieu qui ne se trompe pas. C'est le Dieu de vérité. Alléluia. Et je suis heureux de prêcher cet évangile l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Mes amis, quand j'ouvre la Bible, quand je lis la Bible, je suis là sur un terrain qui est sûr, sur un terrain qui est solide. C'est pas de la gnognotte, c'est pas du sable, c'est pas du sable mouvant, c'est pas des mensonges, c'est pas oui, non. Il est dit que là, les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Dans un monde où l'actualité, j'ai noté chaque jour, nous donne toutes les raisons d'être inquiets et pessimistes, les chrétiens ont un formidable message à annoncer. Ils ont une formidable espérance à apporter. Ils ont un Christ vivant à partager. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait ? La valeur de cette réunion, la richesse de cette réunion, c'est que Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Et c'est parce qu'il est là, mes amis, que tout peut changer, parce que sa parole est la vérité. Est-ce qu'il existe un idéal, une valeur, une vérité qu'aucun événement, j'ai noté ceci, ne peut détruire, qu'aucune bombe, qu'aucune tempête, qu'aucun tremblement de terre ne peut détruire? Oui, cette vérité existe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque nous prêchons cet évangile-là, nous sommes là sur un terrain qui est solide. L'autre jour, je lisais un article qui m'a vraiment impressionné. Vous savez que la Bible, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, c'est le best-seller. C'est le livre le plus traduit dans le monde. Le plus traduit dans le monde. Et l'article disait, ça m'a réellement réjoui, si tout le papier qui sort des presses pour imprimer la Bible faisait un mètre de largeur, ce papier ferait plus de deux fois le tour de la Terre. Vous réalisez un peu ? Tu n'as pas compris, toi ? Si, si. Plus de deux fois le tour de la Terre. Je crois que la Terre fait 40 000 kilomètres, c'est ça, non ? Hein ? Vous vous rendez compte ? C'est pour vous dire que la parole de Dieu, elle est là. Elle est bien là. La Bible, le Seigneur a dit, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Alléluia. C'est une parole certaine. Comment je vous prêche aujourd'hui ? Je suis heureux parce que les Esquimaux, ils peuvent lire la Bible là où ils sont. Les Esquimaux, les Zoulous, dans la brousse, ils peuvent aussi lire la parole de Dieu. Ce livre est répandu dans le monde entier. Parce que cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un système, ce n'est pas la parole d'une religion, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, mes amis, seule peut changer le cours des choses. C'est une parole certaine, dit l'Écriture. Une parole certaine. L'autre jour, j'entendais ceci à la radio, pardon, à la télévision. Une émission où on parlait de mariage. Et il y avait plusieurs dames qui étaient là, qui rendaient leur témoignage. Il y en a une qui a dit, la veille de mon mariage, alors que tout était prêt, j'avais préparé ma robe de mariée, elle m'a coûté très cher, on lui avait envoyé toutes les invitations la veille de mon mariage. Celui qui devait être mon mari m'a dit ciao. La veille du mariage. Et puis elle s'est mise à pleurer. Une autre disait 10 jours. 10 jours avant mon mariage, disait-elle, pareil. C'était l'euphorie, c'était le grand jour qui allait arriver. Ça allait être la fête, etc. Celui qui devait être son mari a déclaré qu'il était déjà marié. Et elle n'en savait absolument rien. Ça a été la douche froide. Mes amis, ça, c'est la parole des hommes. Dans la ville de Saint-Étienne, une dame, elle avait un fils handicapé. Elle va faire des courses avec son fils handicapé. Elle revient, mariée depuis, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus. Elle trouve un mot sur la table. Je te quitte. Je te quitte. Elle est bouleversée. C'est pas possible. Elle relit. J'ai bien lu. Je te quitte. Le bonhomme, il n'est plus là. Il est parti avec toutes ses affaires. Pendant qu'elle était en train de faire les courses. Alors pour elle, tout est terminé. Tout s'arrête là. Elle prend une décision. Il y a le train qui passe pas tellement loin de chez elle. Elle me dit, c'est clair, avec mon fils, on va se jeter sous le train, on n'en parle plus. Pour elle, tout est terminé, tout s'effondre. Alors elle étudie l'itinéraire, les horaires des trains pour que tout se passe bien. Et puis, lorsqu'elle s'en va avec son fils, décidée à mettre un terme à sa vie et à celle de son enfant, elle passe dans une rue. Elle n'avait jamais fait attention. Il y avait une église évangélique. Et comme c'était en plein été, le pasteur, inspiré, parce que vous savez qu'on chante dans nos salles, il faisait une chaleur épouvantable. Alors le pasteur dit, ouvrons les fenêtres. Alors ils ouvrent les fenêtres, et à ce moment-là, passe notre amie. Elle entend le chant des cantiques. Il dit, mais c'est pas possible. D'un seul coup, il dit, mais il y a donc des gens heureux. Donc le bonheur existe. Quelque part, il dit, mais qui sont ces gens qui chantent? Elle est interpellée. Elle rentre dans la salle. Elle n'a plus jamais quitté la salle. Parce que le Seigneur a touché son cœur ce jour-là. Alléluia. Dieu est formidable, mes amis. Dieu est formidable. Que c'est bon de connaître le Seigneur. Que c'est bon de connaître la parole de Dieu. L'autre jour, quelqu'un disait, un journaliste disait, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de séries sur la guerre de 40, sur Hitler, sur les nazis, j'en ai vu je ne sais pas combien de documentaires, et Hitler a dit ceci, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1933, Hitler a dit, donnez-moi 10 ans, et vous ne reconnaîtrez plus l'Allemagne. Et le journaliste a ajouté, c'est la seule promesse qu'Hitler a tenue. Parce que 10 ans après, et 12 ans après exactement, l'Allemagne était méconnaissable. C'était un champ de ruines. Un champ de ruines. Voilà ce qui restait de l'Allemagne. Les amis, ça, c'est la promesse des hommes. Mais avec Dieu, c'est totalement différent. J'ai prêché l'évangile dans la ville d'Annemas, bien sûr, dans la ville d'Annecy aussi, et j'ai le souvenir, et je vois qu'il y a des frères qui sont là, qui ont peut-être s'en rappeler. Il y avait une dame qui était là, avec sa maman, qui venait aux réunions depuis quelque temps, Madame Catelin. Des gens qui venaient du nord, de la France. Et puis, à la fin de la réunion, elle me dit... Parce que, comme dans toutes les réunions, on prie pour les malades, on fait venir les gens sur le devant. Et j'ai vu qu'elle parlait avec sa maman, comme ça. Puis quand tout le monde était parti, pratiquement, elle m'a dit, « Pasteur, on est un peu choqués, quoi. »« Ah bon ?» Je dis, « Pourquoi ?»« Ben oui, parce que vous imposez les mains aux malades, etc. » »« Chez nous, dans le Nord, on ne faisait jamais cela. » J'ai dit, « Mais écoutez, j'ai rien inventé. » Je mets en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les... J'ai dit, on n'a rien inventé, nous ne sommes pas une secte. Moi, je ne suis pas un gourou, je suis Jean Lépian. Il m'a dit, oui, mais enfin, chez nous, je dis, écoutez, ma chère sœur, ce n'est pas ce que vous faisiez chez vous qui est important, c'est ce que dit l'Écriture. Et puis, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Là, elle m'explique. Je lui ai dit, vous savez, puisque vous priez pour les malades, moi je fais des cauchemars toutes les nuits. Son mari était à l'époque, je ne suis plus maintenant, chauffeur de poids lourd. Il partait le lundi, certainement qu'il revenait à la fin de la semaine. Il m'a dit, vous savez, je fais des cauchemars. La nuit, je vois mes enfants, on les prend, on les jette dans de l'eau bouillante, etc., etc. Elle m'a dit, ça me réveille, j'ai perdu le sommeil, etc. Est-ce que vous voulez prier pour moi? Je lui ai dit, mais bien sûr. Alors j'ai imposé les mains à notre cher ami, au nom de Jésus. Et puis, quelques jours après, elle m'a dit, ça y est, c'est fini. Elle m'a dit, j'ai fait un rêve. J'ai vu un concentré de tous ces cauchemars que je voyais chaque nuit et une porte et une main qui fermait la porte sur tous ces cauchemars. Depuis, il n'y a plus rien. J'ai retrouvé mon sommeil. J'ai dit, voyez-vous que ça marche? L'imposition des mains. Amen. Vous voyez que la parole de Dieu est une parole de vérité. C'est une parole sûre. Une parole certaine. Alléluia. Alors là, et bien maintenant elle est toujours à l'Assemblée, du reste, elle a fait son expérience avec le Seigneur. C'est une parole certaine, dit l'apôtre Paul, et entièrement, verset 15, digne d'être reçue. Mes amis, la Bible, ce n'est pas seulement un livre d'informations sur Dieu, sur l'univers, sur l'homme, sur le futur. La Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est une parole qu'on doit recevoir dans notre cœur. Elle ne doit pas simplement percuter notre oreille, mais elle doit pénétrer notre cœur. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, autrefois, on était comme tout un chacun. Le pasteur qui est ici, Alain Ray, moi, Jean Lépian, on n'est pas né pasteur. Moi, je ne suis pas né, comme dit l'autre, avec une Bible sous le bras. On était comme tout le monde, on avait notre religion, on n'avait pas de religion. Un jour, on est venu entendre l'Évangile, on a écouté. Certains disent oui, d'autres non, etc. On se pose des questions. Mais un jour, il a fallu faire un choix. Et un jour, pour ma part, j'ai dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je crois dans cette parole. Et à partir de là, dès l'instant où on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'elle est crue, c'est là que le miracle s'opère. Alléluia, si tu crois. Et la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. C'est en croyant du cœur que l'on parvient au salut, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut et à la justice. Alléluia. Cette parole, elle n'est pas simplement faite pour être entendue. L'apôtre Jacques dira, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole et à tromper votre cœur par de faux raisonnements, mais mettez-la en pratique. Et à partir du moment où cette parole pénètre notre cœur, alors mes amis, tout peut changer. Amen. Dans la ville de Rouen, il y avait une famille adventiste. C'est-à-dire des gens qui observaient le sabbat, qui ne mangeaient pas de porc, et puis, voilà, et qui pratiquaient leur religion. Le problème, c'est que lui, le papa, il avait reçu une plaque de fonte sur l'épaule. Il ne pouvait plus bouger son épaule. Ce n'était pas l'épaule gauche, pardon, c'était l'épaule droite. Il ne pouvait plus se coiffer, il ne pouvait même plus manger, il ne pouvait même plus se raser. Et puis, c'est un homme quand même qui lisait la Bible. Et en lisant la Bible, il s'est rendu compte quand même que, qu'on le veuille ou non, dans les évangiles, il y a des miracles, oui ou non? Il y a une trentaine de miracles qui sont relatés dans les évangiles, et ils ne sont pas tous relatés. Alors cet homme, il lit l'évangile, il lit les épîtres, il dit, mais c'est bizarre. Dans nos assemblées, dans notre assemblée, on ne parle jamais de ces choses, on ne prie pas pour les malades. Alors le gars, il était quand même quelque part interpellé, il va voir ses responsables, il dit, mais pourquoi? Mais non, tout ça c'est fini, c'est terminé, c'était du temps de Jésus, etc. Et le gars, il a toujours mal, quoi. Et puis on fait une mission dans la ville de Rouen. Cet homme vient avec sa femme, avec sa fille, on lui impose les mains, il est guéri à la première réunion. Sa fille, Odette, avait des névralgies. Elle souffrait des maux de tête depuis des années, entièrement guérie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été voir leur cher pasteur en disant, « Cher pasteur, on vous aime beaucoup, mais on préfère la vérité à ce que vous enseignez. Parce que nous, on a trouvé en Jésus-Christ le grand médecin qui guérit, selon ce qui est écrit dans sa parole. » Alléluia. J'ai été faire quelques jours de réunion il y a 2-3 ans à Rouen. C'était un monsieur, pareil, adventiste. Il a été interpellé parce que dans l'Écriture, il est question du Saint-Esprit, vous le savez, du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Alors ce gars, il s'est dit, mais comment ça se fait que dans nos assemblées, nos responsables ne parlent jamais de ces choses? Comment ça se fait? Alors lui, pareil, il va voir le responsable. Ils ont dit, mais non, tout ça, c'est terminé. Vous connaissez le texte où il est dit que les langues cesseront. Mais il est dit, lorsque ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire lorsque Jésus sera venu. Or, jusque-là, le parler en langue est une réalité qui demeure. Alléluia. Alors lui, le gars, il ne s'est pas laissé démonter. Il a dit, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord, c'est écrit, etc. On l'a mis à la porte. Alors le gars ne s'est pas découragé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, moi, je crois ta parole. Et il n'avait aucun enseignement sur le Saint-Esprit, mais il y avait la parole. Et comme il était vrai, comme il était sincère, comme il a reçu la parole de Dieu dans son cœur, eh bien, chez lui, il a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, il a commencé à ouvrir sa maison, et 5, 6, 7, 10 personnes sont arrivées, n'est-ce pas? Je me souviens, dimanche matin, à Rouen, j'ai vu le pasteur adventiste venir, parce qu'il y avait plus de 10 personnes qui venaient chez nous, parce qu'ils ont commencé à dire, là, il faut venir là-bas, ils prient pour les malades, etc. Ça s'est su, et plus de 10 personnes sont venues chez nous, et le pasteur, elle a dit, je vais voir ce qui se passe. Ah oui, il n'était pas content, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, mes amis, c'est une parole certaine et digne d'être reçu. De la première à la dernière page, la Bible est parole inspirée. Elle est vraie, elle est sûre, elle est fiable. Alléluia. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Les promesses de Dieu, elles sont sûres et elles sont certaines. L'apôtre Paul ajoute ceci. C'est une parole certaine, sûre donc, entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Amen. Donc Jésus-Christ est venu dans le monde. La venue de Jésus, pour certains, c'est pas vraiment sûr. On pense, on peut supposer, mais rien ne prouve. Mais mes amis, moi je peux vous dire exactement le contraire. La Bible dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Lorsque vous allez dans les cimetières, qu'est-ce que vous voyez? Des milliers de croix. Des milliers de croix. Même dans les campagnes, lorsque vous arrivez à un carrefour près de chez nous, il y a un carrefour, il y a une grosse croix en fer forgé qui est là. Dans toutes les bibliothèques du monde, qu'on le veuille ou non, il y a un tas de livres qui parlent de ce Jésus de Nazareth. Ça a inspiré sa vie, sa mort, sa prédication, sa résurrection, son ascension, ont marqué le monde d'une marque indélébile, qu'on le veuille ou non. Jésus a coupé le monde en deux, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Sa venue est indiscutable. Les pieds du Seigneur ont foulé le sol humain, le sol de cette terre. Alléluia. Pour nous, c'est quelque chose qui est sûr. Sa personne a inspiré des cinéastes. J'ai vu combien de films sur Jésus, même des pièces de théâtre. Pourquoi? parce que Jésus-Christ a marqué le monde d'une marque indélébile. Alléluia. C'est une parole certaine, digne d'être reçue, à savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde pour. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour sauver. Pour sauver. C'est extraordinaire. Non pas pour condamner, non pas pour écraser, non pas pour culpabiliser, non pas pour nous enfoncer, non pas pour nous rejeter, ça c'est pas le Dieu de la Bible, mais pour sauver les pécheurs. Et c'est ça la bonne nouvelle, mes amis. Le Seigneur nous aime tous, sans distinction. Et sa volonté, c'est que nous soyons sauvés, que nous soyons heureux, que nous soyons réconciliés avec le ciel. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Il est venu pour sauver, dit la Bible. Non pas pour écraser, non pas pour condamner. J'aime beaucoup cette parole. Vous savez, j'aime à le dire, au centre de la Bible, il n'y a pas un gros ordinateur. Il n'y a pas un Dieu avec un bâton qui nous attend. Au centre de la Bible, il y a un cœur énorme. Un cœur, le cœur de Dieu, qui nous dit « Je t'aime, je vous aime et je vous attends tel que vous êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. » Regardez ce que dit Paul. Venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des pécheurs. La Bible est formelle. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et le péché, c'est une maladie mortelle. C'est le péché qui nous rend malheureux. C'est le péché qui est la cause de toutes les guerres. De tous les malheurs qui frappent notre monde. Vous savez, régulièrement, il y a ce qu'on appelle des marées noires. Il y a des gros navires qui transportent du fioul, du mazout, et qui, pour une raison ou pour une autre, ont un accident et ce fioul est déversé dans les mers. Et souvent, j'ai vu ces photos et ça m'a parlé. On voit des oiseaux qui sont là, englués dans le mazout. Vous l'avez vu comme moi? Vous avez remarqué? Incapable de s'en sortir. Il faut qu'une main les saisisse. Et même s'ils arrivaient, ces oiseaux, à s'arracher à ce mazout, ils seraient recouverts de goudron. Il faut les laver. C'est exactement ce que produit le péché, mes amis. L'homme ne peut pas se sauver de par lui-même. La Bible déclare que l'homme a besoin d'être sauvé. Un jour, on m'a demandé, il y avait une bohémienne qui était connue dans la ville où elle habitait, je ne sais plus où. On la voyait dans la rue régulièrement, elle faisait les lignes de la main. La bonne aventure, comme on dit, on la voyait dans les marchés. Et un jour, un homme vient vers elle et lui dit « Fais-moi la bonne aventure » en lui tendant la main. Vous savez ce qu'elle a répondu, la bohémienne? Elle dit, monsieur, la bonne aventure, non! Mais la bonne nouvelle, oui. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, elle a répondu, la bohémienne, entre-temps, j'étais converti. C'est que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. C'est que Dieu est amour et trois. C'est gratuit. Parce que jusque-là, quand on faisait les lignes de la main, on lui glissait un billet ou une pièce. Mais entre-temps, elle avait rencontré celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur l'avait délivré. Et maintenant, elle pouvait dire, non plus la bonne aventure, mais la bonne nouvelle à qui voulait l'entendre. Et mes amis, la bonne nouvelle, c'est celle-là. C'est que qui que nous soyons, le Seigneur peut nous changer, nous transformer. Vous savez, il n'y a aucune loi, aucune philosophie qui peut changer le cœur de l'homme. Du reste, on s'en rend compte tous les jours. On est méchant. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise, oh là là. on est gentil, on est pacifique, on est doux, on est humble. C'est pas vrai, vous savez très bien, hein, n'est-ce pas? Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait, en parlant de ce qu'on appelle les liens, Sacha Guitry disait, c'est facile d'arrêter de fumer. Je l'ai fait plus de 10 fois. Plus de 10 fois, ça voulait dire que le gars, il a beau essayer de fumer, il n'arrivait pas. L'autre jour, j'ai lu quelque chose qui m'a intéressé. Napoléon, ce matin, j'en ai parlé un peu de Napoléon. Il a fait une thèse dans la ville de Lyon concernant l'ambition. Il a fait une thèse sur l'ambition. Et vous savez que c'est ça qu'il a perdu. Victor Hugo a dit en parlant de Napoléon, ce ne sont pas les navires anglais, ce n'est pas le général Ney qui l'a perdu, mais c'est son orgueil, c'est son ambition. Le gars, il fait une thèse sur l'ambition et c'est ça qui va le détruire. Pourquoi ? Parce que l'homme, quel qu'il soit, il ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas se changer lui-même. C'est impossible. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Il a donné sa vie pour nous. Et si je crois en lui, si je mets ma confiance en lui, si je dis, Seigneur, je crois que tu as donné ta vie pour moi, et je te fais confiance, à partir de là, tout va changer. Et la Bible déclare qu'en Christ, l'homme est devenu une nouvelle création. Amen. Hier, je vous ai parlé de cet homme, de ce gitan qui frappait sa femme. Et dès l'instant où cet homme s'est converti, c'est terminé. Il ne pouvait plus accomplir cela parce que le Seigneur avait changé son cœur, changé ses sentiments. Mes amis, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et une dernière chose. L'apôtre Paul dit ceci, c'est intéressant, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vous n'avez pas remarqué qu'on a tous cette fâcheuse habitude de penser qu'on est quand même mieux que les autres. Hein? C'est pas vrai? Vous avez tous une voiture. Hein? Voilà. Lequel d'entre vous n'a jamais fait une queue de poisson? Levez la main. Ça fera un mensonge de plus. Hein? On dit, ah, vous avez vu le gars comment il conduit, hein? Vous avez vu un tel, etc. Comment il conduit? Mais on est tous du pareil au même, n'est-ce pas? On est toujours en train de croire que c'est la faute des autres, que c'est les autres qui doivent changer. Écoutez les partis politiques. La gauche dit, la droite, elle est pourrie. La droite dit, la gauche, elle est pourrie. C'est pas vrai? Alors pour la droite, il faut que ce soit la gauche qui change. Pour la gauche, il faut que ce soit la droite qui change. Hein? Les riches disent les pauvres, les pauvres. Les pauvres disent les riches, les riches. Les patrons disent les ouvriers disent les patrons, ils sont pourris. Mais vous n'avez pas remarqué? Hein, mes amis? C'est toujours la faute des autres. Hein? C'est jamais de sa faute. Mais quand on entend l'évangile, mes amis, là, c'est fini, on perd sa superbe. Et puis, on dit plus, c'est de la faute des autres. Paul dit, dont je suis le premier. Pourquoi? Parce que je le veuille ou non, ce sont mes péchés qui ont mis le Christ sur la croix. C'est pour mes péchés, pour Jean à l'épiant, que Jésus est mort sur la croix. Ma maman, qui était une femme croyante, catholique, pratiquante, elle n'a jamais fait la bringue. Le premier homme qu'elle a rencontré, c'est-à-dire mon père, s'est marié avec elle, avec lui. Pas de drague, rien. Et pourtant, quand elle est venue à La Réunion, à Lyon, pour la première fois, parce qu'elle a entendu la prédication de l'Évangile, elle a dit à mon père, dans son oreille, « Arthur, nous ne sommes pas des chrétiens. » Ce jour-là, par le Saint-Esprit, elle a pris conscience que malgré sa sincérité, malgré la morale qu'elle avait, malgré sa religion fervente catholique, elle a pris conscience ce jour-là qu'elle était une pécheresse comme tout un chacun. Nous ne sommes pas des chrétiens. Elle a eu un songe. Tout le ciel était représenté par la tête du Christ avec sa couronne d'épines. Et le Christ qui regardait ma mère avec des yeux tristes. Et ma mère était tellement impressionnée par ce songe et dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et dans son songe toujours, regardez comme c'est formidable parce que ma mère était vraie. Dans son songe, Jésus lui dira, tu liras l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Ma mère, elle avait une Bible, mais comme, comme tous les catholiques de l'époque, elle lisait rarement la Bible. Alors elle se réveille avec ça, elle est bouleversée, et il y avait un chrétien là qui avait découvert le plein évangile à Lyon. Alors elle va chez lui, il dit, voilà, j'ai fait un rêve bizarre, voilà ce que Jésus m'a dit, Jean chapitre 3, verset 3. Et ce frère dit, eh bien écoute, ma mère s'appelait Hélène, on va lire ensemble. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le frère a expliqué à ma mère qu'elle avait besoin de se convertir, de passer par cette nouvelle naissance, de naître de nouveau, de naître d'en haut par le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, elle a compris que la religion n'était pas suffisante pour la sauver, qu'elle devait passer par ce qu'on appelle, nous chrétiens, la nouvelle naissance. Et ma mère s'est convertie, le papa s'est converti, et je sais qu'un jour je les retrouverai tous les deux dans la gloire. Alléluia. Christ est venu, c'est une certitude pour sauver les pécheurs, dont dira l'apôtre Paul, je suis le premier. Quand on a cette double révélation, la révélation de son péché et la révélation que Jésus est le sauveur, à partir de là, mes amis, tout est gagné, il n'y a plus de problème, on sait que notre salut est certain. Amen. J'aimerais qu'on puisse chanter ce petit chant qui dit ceci.